Bonjour, aujourd'hui je vais faire une méditation avec vous sur un sujet quand même important. Puis on va le voir dans le partage que je vais vous apporter, comment est-ce que parfois on peut trouver que c'est pas important, mais la Bible nous parle d'une grande importance à ce sujet-là. Faites-vous de l'exercice. Si on regarde dans la moyenne des gens font d'exercice, il y en a qui vont jusqu'à faire des petits exercices quotidiens, prennent 5 minutes, 10 minutes pour faire des exercices d'assouplissement. Il y en a d'autres qui vont à des centres d'entraînement, puis avec un groupe, puis ou en individuel, puis là, ils font d'exercices chaque jour ou à tous les 2 jours. Il y en a qui c'est des exercices légers. Mais il y en a d'autres, des exercices violents pour se maintenir en forme, pour augmenter notre capacité cardiovasculaire, puis notre musculation, notre force, notre souplesse, notre agilité. Puis il y en a que c'est du vélo, puis il y a toutes sortes d'exercices possibles parmi les sports qui sont disponibles aujourd'hui pour pouvoir aller pratiquer toutes sortes de sports qui vont nous donner cette endurance pour garder notre souplesse, notre forme physique jusqu'à temps qu'on meure. Nous vivons en moyenne 80 ans, puis là-dessus on passe, mais normalement, là, pour des familles normales, on passe beaucoup de temps à s'entraîner physiquement. Mais savez-vous que la Bible parle de l'exercice? La Bible parle de l'exercice physique, mais elle parle aussi de l'exercice spirituel. Puis elle nous donne, dans certaines directives, que nous devrions s'efforcer, faire un exercice spirituel chaque jour. La parole de Dieu nous encourage à s'exercer à la piété. Puis là, on va voir que pour notre vie spirituelle, il est important qu'on prenne du temps pour s'exercer à la piété. Dans 1 Timothée 4:7, ça nous dit « Exerce-toi à la piété ». C'est comme si le fait de vouloir vivre d'une manière pieuse devant Dieu, d'exercer la piété envers Dieu, c'est quelque chose qu'on doit s'entraîner. C'est pas quelque chose d'automatique. La piété, pour ceux qui le savent pas, c'est comme une attitude, puis en même temps, c'est un mode de vie, de révérence, de respect, de fidélité envers Dieu. C'est comme si chaque être humain était encouragé dans ce verset-là à s'exercer, à faire de l'exercice pour devenir révérencieux, respectueux, être fidèle envers Dieu. Dieu, dans sa parole, il nous a déjà donné tout ce qui était nécessaire pour que nous soyons pieux, pour qu'on puisse exercer cette révérence, ce respect-là envers Dieu. Puis dans 2 Pierre 1:3, ça nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Voyez-vous, la parole de Dieu nous a révélé tout ce qui était nécessaire qu'on apprenne à connaître Dieu, qu'on apprenne à connaître sa volonté, qu'on apprenne à connaître son amour, qu'on apprenne à connaître ce qu'il a fait comme plan pour nous racheter, pour nous sauver, pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés et d'avoir la vie éternelle. Dieu a déjà démontré au moyen de sa connaissance, au moyen de la révélation de la Bible, il nous a déjà donné tout ce qui était nécessaire pour tout être humain, tout ce qui contribuait à la vie et à la piété. Si je vous parlais tantôt qu'il fallait s'exercer à la piété, c'est que Dieu nous a donné les raisons. Il nous a donné au moyen de la connaissance les raisons pourquoi qu'on devrait être pieux, puis pourquoi qu'on devrait s'exercer à être pieux. Parce que la parole de Dieu nous enseigne les avantages, les points positifs, les points négatifs de la piété, puis la Bible nous dit que c'est plus utile même que l'exercice physique. Dans 1 Timothée 4:8, ça nous dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Puis, si on regarde comparativement à l'exercice corporel, on se maintient en forme, on garde une certaine forme physique, c'est utile à peu de choses, parce que c'est sûr qu'on va avoir une vitesse de récupération plus facile, on garde une plus de souplesse, etc. Mais c'est bon que pour la vie terrestre, la vie physique. Tandis que la piété est utile à tout, parce que la piété, le fait d'être révérencieux, respectueux, fidèle à Dieu, de s'engager, de le suivre, puis de l'honorer, de le prier, de le louer, de lui rendre la gloire qui lui revient. Tout ça, c'est utile à tout, parce que dans la piété, ça a la promesse de la vie présente, puis celle de l'avenir. Faire des efforts, faire des exercices pour notre vie présente, c'est bien. Notre vie présente, comme je disais tantôt, on vit 80 ans, on veut se maintenir en forme, c'est quand même utile d'en faire un peu d'exercice pour se maintenir en forme pour notre 80 ans terrestre. Tandis que la piété, le fait d'être servir Dieu, d'honorer Dieu, de glorifier Dieu, d'être révérencieux, respectueux, être fidèle à Dieu, c'est utile à beaucoup plus que juste le fait de dire « faut que je vive ma vie terrestre ». Parce que dans la piété, ça a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Il y a des centaines de promesses qui sont écrites dans la Bible, des promesses qui sont écrites dans le Nouveau Testament, qui sont là comme si tu veux marcher puis plaire à, puis vivre de manière qui plaît à Dieu, si tu veux faire la volonté de Dieu, Dieu va te bénir, Dieu va pourvoir à tes besoins, Dieu il t'a mis en place un paquet de promesses que tu pourrais obtenir en autant que tu pratiques ce qu'il te demande, en autant que tu veuilles vivre d'une manière pieuse. Voyez-vous, les promesses de la Bible ne sont pas juste pour la vie présente, mais elles sont aussi pour la vie à venir. Quand que je parle de la vie à venir, la Bible parle qu'on va tous ressusciter et que ceux qui sont morts pardonnés de leurs péchés, ils vont vivre la vie sans fin, la vie éternelle, une vie qu'un commencement lorsqu'on meurt, mais elle n'aura plus jamais de fin. Nous n'aurons plus de fin d'existence. Nous allons vivre une vie sans fin. C'est pour ça que la Bible nous dit que la piété est utile à tout, non seulement pour obtenir des promesses pour la vie présente, mais en plus, tu vas obtenir des promesses pour la vie à venir. Parce que la Bible parle que non seulement d'avoir la vie éternelle, mais en plus, il y a toutes sortes de bénédictions qui sont rattachées à cela. Dieu promet de nous donner des richesses éternelles, de faire de nous des rois et des seigneurs pour régner avec lui pour l'éternité. Puis il y a toutes sortes d'avantages comme de vivre dans son temple, puis d'être dans sa présence, puis de voir Dieu de nos yeux, puis etc., etc. Il y a des centaines de promesses pour les choses de la vie à venir. La Bible parle que ces promesses-là appartiennent à ceux qui s'exercent pour la piété, à ceux qui veulent vraiment vivre d'une manière qui plaît à Dieu, d'être révérencieux ou respectueux envers Dieu. Puis en fin de compte, c'est le but pour tous. Dieu a mis ce but-là pour tout être humain. Tous les gens sur la terre devraient apprendre à être respectueux, révérencieux, puis d'être fidèles à Dieu, de vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Dans Hébreux 12, 28, ça nous dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. » Nous avons reçu, une fois que nous sommes sauvés, un royaume inébranlable. Nous avons la promesse de vivre la vie sans fin avec Dieu dans le ciel, dans ce que le monde appelle le paradis. Puis, à cause de ce qu'on reçoit à travers de Jésus-Christ, de tout l'ensemble de ses promesses, tout ce qui nous est révélé dans sa parole, nous devrions avoir de la reconnaissance. Nous devrions être reconnaissant de tout ce que Dieu nous a donné. Puis, une manière de s'exercer pour être reconnaissant, c'est de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. C'est le devoir de chaque être humain sur la terre de s'arrêter, puis de rendre un culte à Dieu, puis de remercier Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Parce que ce Dieu-là est digne de louange. Il nous a non seulement créés pour qu'on puisse vivre dans cette vie, mais en plus, il nous accompagne, puis il veut exaucer nos prières, puis il y a des choses extraordinaires qui nous attendent après dans le royaume inébranlable. À cause qu'on est dans cette direction-là, dans ce chemin-là, nous devons rendre à Dieu un culte qui soit agréable avec piété. Nous devons rendre un culte à Dieu avec respect, révérence, avoir une crainte de Dieu, avoir un cœur qui respecte Dieu. Puis c'est pas quelque chose qui est automatique dans l'être humain, parce que dans l'être humain, ça serait ce qui est plus automatique, c'est d'oublier Dieu, puis de pas s'occuper des choses de Dieu, pas prendre le temps de rendre la gloire qui revient à Dieu. Puis souvent, il y a beaucoup de gens qu'ils veulent le salut, ils veulent la vie éternelle, mais ils veulent pas vivre d'une manière conséquente à cela. Ils veulent aussi les plaisirs du monde, les péchés qui sont dans le monde, ils veulent profiter des deux mondes. Mais ça, c'est un manque de respect à Dieu. C'est pas de vivre puis de rendre un culte à Dieu qui soit agréable avec piété et respect envers Dieu puis avec crainte. Dieu veut qu'on lui donne la première place. Il veut qu'on prenne notre temps pour le glorifier, pour lui rendre la gloire qui lui revient, lui chanter des chants, le remercier, le prier, lui dire qu'on l'aime. Le contraire, savez-vous que le contraire d'être pieux, c'est d'être appelé un impie? Un impie, c'est le contraire d'un homme pieux. Puis Dieu a déjà donné des jugements contre les impies. Il y a eu des prophéties d'annoncer dans l'Ancien Testament. Il y a aussi des prophéties dans le Nouveau Testament. Il y a aussi des paroles de Jésus lui-même ou des paroles des apôtres ou dans l'Apocalypse direct des paroles de Jésus. Puis que Dieu condamne les impies. Le fait qu'un humain qui est sur la terre, puis qui respecte pas Dieu, puis qui est pas révérencieux envers Dieu, puis il est pas fidèle envers Dieu, il est déclaré un impie, puis les jugements sont déjà là-dessus, contre les impies. Dans Jude 1, le verset 14, ça nous parle justement d'un passage qui nous dit que Enoch, un prophète de l'Ancien Testament, c'était le septième après Adam. Il a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils auront commis et de toutes les paroles injurieuses qu'auront proférées contre lui les pécheurs impies. Voyez-vous, Dieu a déjà prophétisé à travers ce prophète-là que Jésus était pour venir, le Seigneur lui-même était pour venir, avec toutes ces myriades d'anges et tous ceux qui vont l'accompagner au jugement de son retour. La Bible nous dit qu'il va revenir pour punir ceux qui connaissent pas Dieu puis ceux qui obéissent pas à l'Évangile. Il est venu pour punir tous ceux qui sont impies, qui marchent d'une manière impie, puis qui ont des actes impies, puis qui ont des paroles impies. Les gens qui sont comme irrévérencieux, irrespectueux, infidèles envers Dieu, vont faire partie de ceux qui vont être jugés de la part de Dieu. Dieu s'attend à ce que tout être humain puisse marcher d'une manière qui le respecte, puis d'une manière qui y porte révérence. Il est Dieu. Il est le Créateur de toutes choses. C'est sûr qu'il y a des gens qui s'en foutent, puis qui se foutent de l'autorité du Créateur. Mais un jour, sachez que tous vont ressusciter, puis tous vont avoir à comparaître devant ce grand Dieu-là. Puis ce grand Dieu-là, dans son jugement est déjà donné, il va faire rendre compte de chaque parole, de chaque action impie, de chaque action et chaque parole irrévérencieuse, puis irrespectueuse, ou de toute action infidèle. Toutes les gens qui vont vivre d'une manière comme qui s'en foutent de Dieu, puis que là, ils ne respectent pas, vont avoir à rendre compte de leur action, puis ils vont avoir un jugement contre tous. Puis la Bible parle que ceux qui connaissent pas Dieu, puis ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, vont avoir comme châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, puis de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être admiré et glorifié dans ses saints et dans tous ceux qui auront cru. La Bible parle du retour glorieux de Jésus-Christ, puis ça c'est pour dans pas long, puis il y a déjà des signes qui s'accomplissent, puis il y en a d'autres qui sont en train de s'accomplir, que le Seigneur Jésus-Christ, il va revenir bientôt, puis que les gens ont à avoir fait la paix avec Dieu avant qu'il revienne, parce qu'il va être trop tard. Après qu'il soit revenu, la porte va être fermée, puis il va être trop tard pour l'accepter, puis pouvoir être pardonné de leurs péchés. Puis leur manière de vivre impie, Dieu ne l'oubliera pas. Les hommes pensent que Dieu oublie ou que Dieu voit pas. Mais Dieu voit tout ce que nous faisons. Il connaît tous nos sentiments, nos pensées de notre cœur. Il nous connaît entièrement à l'intérieur de nous. Il sait qu'est-ce qu'il y a en nous. Il sait qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a fait à chaque moment de notre vie. Et Dieu va nous faire rendre compte si nous n'allons pas à Jésus pour recevoir le pardon de nos péchés et de recevoir la vie éternelle comme cadeau. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il veut que nous repentions et que nous changions de vie. Il y a plusieurs fausses doctrines qui courent dans le monde pour des faux enseignements. Comme un exemple, la doctrine de la prospérité, en disant « Oh, Dieu, si tu sers Dieu, tu vas devenir riche, puis ça va aller bien, puis tu vas faire beaucoup d'argent, puis tu vas prospérer dans ta vie, puis tu vas être riche. » Laissez-moi regarder un autre passage dans 1 Timothée 6, 3. Ça nous parle. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines puis ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, voyez-vous, la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, c'est une doctrine qui est selon la piété. La doctrine de Jésus-Christ, c'est selon la révérence, le respect de Dieu puis la fidélité envers Dieu. C'est ça qui est la parole de Dieu. Si quelqu'un y enseigne d'autres choses, là, des fausses doctrines, puis qui est pas comme un de vouloir enligner la personne à être respectueux et à marcher d'une manière qui plaît à Dieu, mais il est enflé d'orgueil puis il sait rien, puis cette personne-là a les maladies des questions oiseuses puis des disputes de mots, puis là il nous dit que ça fait naître l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'ententement, privés de la vérité, puis croyant que la piété est une source de gain. Il y en a qui ils cherchent à aller à Dieu uniquement parce qu'ils croient que le fait d'être révérencieux ou respectueux ou fidèle à Dieu, ça va être une grande source de gain. C'est comme si il y a des gens qui pensent que le fait de servir Dieu, si tu fais ça pour t'enrichir, pour que ça te rapporte, pour que ça tu acquérisses des biens, de la richesse, de l'argent, puis que tu puisses devenir prospère. Là, Paul il répond à cette idée-là que c'est en effet une grande source de gain que la piété, mais avec le contentement. Car on n'a rien emporté dans le monde, puis c'est évident qu'on ne pouvons rien emporter. Puis si on a la nourriture puis le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans tentation, dans le piège, puis dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine puis dans la perdition. Parce que l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, puis se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Voyez-vous, il y en a qui croient que la piété, c'est une grande source de gain, puis qu'ils vont servir Dieu dans le but de faire de l'argent. C'est vrai que c'est une grande source de gain. Tu as tout à gagner de marcher dans la piété. Parce que dans la piété, tu as les promesses de la vie présente puis les promesses de la vie à venir. Tu as beaucoup d'avantages d'être pieux. Mais il faut que tu aies du contentement dans ta vie terrestre. Tu es venu au monde avec rien, tu vas repartir avec rien. Puis si tu as le vêtement et la nourriture, cela suffit. Mais si tu tombes dans un désir, « Ah, je veux m'enrichir, je veux faire de l'argent », ça va t'éloigner de Dieu, puis ça va t'éloigner de la foi, puis ça va te plonger dans la ruine puis dans la perdition. Parce que si tu tombes en amour avec les biens puis les richesses, puis tu penses que d'être chrétien, c'est ça le but, de devenir riche physiquement puis matériellement, mais tu es en train de t'égarer. Cet amour-là là, va te causer beaucoup de maux, puis tu vas t'égarer loin de la foi. C'est excessivement dangereux de chercher à vouloir posséder tous les biens de la terre. C'est sûr que Dieu sait qu'est-ce qu'on a de besoin, puis il a promis de nous le donner. Mais on doit y aller avec contentement. Puis là, il nous dit à tout être humain qui veut devenir des hommes de Dieu, il nous dit, fuis ces choses. Arrête de rechercher les richesses. Recherche plutôt à être juste, puis à être pieux. recherche la piété. Un chrétien, un véritable chrétien, qui veut s'enrichir spirituellement, qui veut faire des exercices spirituels, mais il va fuir la poursuite des richesses, puis il va rechercher à être juste, à être pieux, à marcher dans la foi, dans la charité, dans la patience, puis dans la douceur. C'est ce que Dieu veut nous enseigner. Il veut qu'on s'exerce à la piété, qu'on fasse des exercices pour être révérencieux. C'est ce qu'on doit rechercher. Rechercher à s'améliorer pour vivre d'une manière qui plaît de plus en plus à Dieu. Puis être pieux, c'est pas naturel, ça exige un entraînement. C'est comme les athlètes. Est-ce que tous les athlètes qui courent dans un stade sont devenus athlètes de naissance, puis qui ont atteint le but de gagner la médaille d'or aux Olympiques sans avoir aucun entraînement? Pas du tout. Ces gens-là, ils ont fait des exercices, se sont entraînés, ils ont fait des petites compétitions, puis là, après ça, ils vont courir dans les grandes courses, dans un stade. Puis Paul, dans 1 Corinthiens 9, 24, nous parle de la même chose, qu'on doit s'entraîner, on doit le faire avec un effort, s'entraîner à être pieux. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. T'es rendu comme ta vie chrétienne est comparée comme une compétition, puis tu dois courir comme si t'es en train de remporter un prix comme si tu seras le premier arrivé. Tu dois faire tous tes efforts, dans ton entraînement, puis dans tout ce que ça coûte pour t'entraîner, parce que tu t'entraînes pour les Olympiques, ça nous dit justement, ce passage-là, verset 25, tous ceux qui combattent, ils s'imposent toutes sortes d'espèces d'abstinence, puis ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, nous le faisons pour une couronne incorruptible. Il est en train de nous dire que notre effort pour vivre la vie chrétienne doit être comme si on est en train de faire un marathon, une course dans un stade, puis on doit le courir, faire nos efforts pour atteindre notre but, puis le faire pour être le gagnant. C'est ça qui est l'effort d'exercice à faire comme pour devenir une personne pieuse pour Dieu, une personne qui sert Dieu puis qui est révérencieuse envers Dieu, une personne qui respecte Dieu puis qui est fidèle à Dieu. On doit le faire comme si on aurait une couronne incorruptible, une couronne qui se perdra pas, qui pourrira pas, elle rouillera pas. C'est une couronne éternelle qu'on va obtenir parce qu'on aura couru la course. Puis, il y en a que pour une couronne passagère, ils se donnent toutes sortes d'abstinence, ils mangent équilibré, puis ils se laissent pas aller à prendre de boissons alcooliques, puis des drogues, puis de manger n'importe quoi. Ils ont une diète sévère, puis un entraînement sévère pour gagner la course. Puis la Bible nous parle qu'on doit être pieux, puis s'entraîner pour courir cette course comme si on veut la gagner. Paul, lui, dans son attitude intérieure personnelle, dans le verset 26 de 1 Corinthiens 9, 26, il nous dit, « Moi, donc, je cours non pas comme à l'aventure, puis je frappe non pas comme battant dans l'air, mais je traite durement mon corps, puis je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » L'apôtre Paul avait compris c'était quoi la mission puis le but de sa vie. C'était de tenir son corps assujetti, puis de le garder dans un contrôle parfait pour pas pécher, pour pas désobéir à Dieu, pour pas se laisser aller, puis de devenir à dérive, puis là courir après richesse, après bien terrestre, après plaisir de ce monde, après les convoitises de ce monde, après les péchés de ce monde, puis là de se perdre lui-même après avoir prêché aux autres. Parce que c'est biblique. Il y a des gens qui ont commencé la course puis qui ont abandonné, qui ont lâché la foi puis qui sont détournés de la foi. C'est comme ça nous le dit dans les passages que je vous ai lus tantôt dans 1 Timothée 6, au verset 9, ça nous dit, ils veulent s'enrichir, mais ils tombent dans une tentation qui est un piège. Puis il y a beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui vont plonger les hommes dans la ruine puis dans la perdition. Il y a des chrétiens qui se perdent, qui poursuivent les biens de ce monde plutôt que de poursuivre la piété, l'amour, la foi, la patience, la douceur. Au lieu de s'appliquer aux choses spirituelles, ils s'appliquent aux choses de ce monde. Paul, il dit, moi, je traite durement mon corps, puis je le tiens en contrôle, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Les chrétiens doivent avoir cette attitude. On combat comme pour remporter la course, puis on est prêt à se mettre toutes sortes d'abstinences pour être sûr qu'on va être des gagnants. Faut pas marcher dans cette vie comme en vagabond ou frappant n'importe où, n'importe comment, puis de courir comme une aventure sans savoir où est-ce qu'on s'en va. La vie chrétienne est complètement, est toute détaillée dans dans le Nouveau Testament, comme mode de vie, comme chose à faire et à ne pas faire, puis que nous devons faire, non pour gagner notre ciel, parce que le ciel, on le gagne par la foi en Jésus-Christ, mais afin de maintenir notre foi, puis de grandir dans la foi, puis de vivre selon la foi, c'est de vivre selon la pratique de la parole de Dieu, d'obéissance envers les paroles de Jésus-Christ, afin qu'on marche d'une manière qui plaît à Dieu et qu'on porte beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. On ne peut pas jouer puis faire semblant d'être chrétien. Dans 2 Timothée 3.1, ça nous parle de ça, que dans les derniers temps, il va y avoir des jours difficiles parce que les hommes vont être égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, insensibles, irreligieux, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ça nous dit que dans les derniers temps, il va y avoir des temps difficiles, puis croyez-moi, nous sommes rendus dans les derniers temps. Puis toutes les caractéristiques que nous voyons décrites dans ces passages-là, Paul avait été averti prophétiquement que dans les derniers temps, les gens vont être comme ça. Ils vont être méchants dans toutes les façons comme je viens de vous l'énumérer. Ça nous dit vers la fin au verset 4, que les gens vont aimer plus le plaisir que Dieu. Que les gens, au lieu de s'exercer à la piété et à marcher de manière pieuse, ils vont aimer les plaisirs. Ils vont aimer entendre des choses agréables. Ils vont aimer à se faire flatter dans le sens du poil. Ils vont aimer entendre des choses qui lui font du bien, mais ils veulent pas vraiment faire puis appliquer à leur vie, comme l'apôtre Paul l'a mentionné, de traiter durement leur corps, puis de le tien assujetti, puis de faire attention à pas être à la poursuite des richesses, mais plutôt de garder une attitude de recherche, de révérence envers Dieu, puis d'un cœur à vouloir être dévoué pour Dieu, puis rendre la gloire à Dieu pour vivre une vie de piété, une vie sainte, une vie pure devant Dieu. Le verset 5 de 2 Timothée 3 nous dit que les gens vont avoir une apparence de piété. Ça va avoir de l'air pieux. Les gens te regardent, oh oui, ils ont de l'air à faire des longues prières, mais le cœur n'est pas dedans. Ils vont être religieux. Pas religieux dans le sens que ils vont vivre vraiment la parole de Dieu, parce qu'ils vont, dans ce sens-là, ils vont être irreligieux. Mais ils vont faire comme semblant d'être des gens qui respectent Dieu, puis qui aiment Dieu, pour montrer qu'ils prient, pour montrer qu'ils vont faire semblant de prier, mais en réalité, le cœur n'est pas avec leur bouche, puis leurs agissements n'est pas avec leur cœur, ni avec leur bouche, puis leur vie ne sera pas conforme à la parole de Dieu. Ils vont avoir une apparence d'être des gens qui aiment Dieu, puis qui sont révérents vers Dieu, mais ils vont en renier ce qui en fait la force. Leur mode de vie va être mondain, à la poursuite des biens de ce monde et des richesses de ce monde, uniquement pour vivre pour leur confort, pour leur luxe, pour leur loisir, pour leur forme physique ou pour leur apparence, et non pas pour vivre d'une manière pour plaire à Dieu, à ce Dieu-là qui voit tout et qui sait tout. Dieu voit notre état que nous avons aujourd'hui. Autant que dans ce temps-là, Dieu a prophétisé que dans la fin des temps, les gens seraient comme ça, parce que Dieu voyait d'avance que dans la fin des temps, que les gens seraient comme ça, puis nous sommes rendus dans la fin des temps, et les gens sont comme ça, et Dieu le voit parfaitement, puisqu'il l'a annoncé, voilà 2000 ans que nous serions comme ça. Mais Dieu veut pas que les gens demeurent comme cela. Il veut que les gens changent de vie. Il veut que les gens se repentent, c'est-à-dire de se détourner de leur mauvaise vie, puis de se tourner vers Dieu pour vraiment le suivre et le servir, puis de le glorifier comme il se doit. Savez-vous que Jésus est venu v'là 2000 ans pour mourir sur la croix afin de pardonner vos péchés, pour vous donner une chance de recommencer une nouvelle vie avec lui? Il est prêt non seulement à vous pardonner, il est prêt à vous purifier. Il veut faire le ménage dans vos vies. Il va entrer en vous par son Saint-Esprit, puis il va vous montrer ce que vous devez changer. Il va vous montrer ce que vous devez abandonner, ce que vous devez poursuivre. Puis votre vie va être guidée par le Saint-Esprit. Il va vous conduire, selon la parole de Dieu, à marcher d'une manière pieuse. Vous allez être des gens qui prient Dieu, qui louent Dieu, qui servent Dieu, qui marchent d'une manière avec la crainte de Dieu, avec un désir de vivre pour Dieu, puis de porter du fruit pour Dieu. Puis, si vous voulez faire cette prière avec moi, je vais faire une prière qui va vous conduire à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ pour que vous soyez pardonnés, puis vous receviez le Saint-Esprit, afin que vous puissiez commencer cette nouvelle vie en communion avec lui. Répétez cette prière avec moi. Père, je te prie dans le nom de Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que je suis perdu, je te demande pardon, et je reconnais que Jésus est venu v'là 2000 ans mourir sur la croix pour pardonner mes péchés. Je l'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur, je le reçois maintenant. Prends ma vie, Seigneur, je la donne, et conduis-moi par ton Saint-Esprit. Conduis-moi selon ta parole et donne-moi de persévérer jusqu'à la fin à te suivre, à te servir tous les jours de ma vie. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu te pardonne tes péchés, puis Dieu te donne le Saint-Esprit. Pour que tu commences cette nouvelle vie, tu as besoin de l'Esprit et de la parole de Dieu. Commence à lire la Bible. Va dans une église évangélique pour entendre les paroles de la parole de Dieu. Puis, va sur mon site, publication-evangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, puis à t'affirmer, à fermer ta foi et ta marche avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse. À la prochaine.